qui m'intéresse un peu, et ça vous intéressera aussi. Je voudrais parler des petites couronnes qu'il y a sur les lettres. Vous savez, sur certaines lettres, dans le Sefer Torah, il y a des petites couronnes, trois petits traits, sur certaines lettres. Les couronnes sont attachées aux lettres. C'est-à-dire, toutes les lettres n'ont pas ces couronnes, mais les lettres qui les ont, elles ont les couronnes, quel que soit le mot dans lequel se trouve cette lettre. Donc, là, on va y revenir. Vous connaissez, pardon, je vais répéter exactement ce qu'il en est de ces couronnes. Dans le tour, Shulchan Aruch, il écrit Noagim becholam komot, shelol isa isha ben pesach la'atzeret. On a l'habitude partout de ne pas épouser les femmes, pas faire de mariage, dit le tour, entre Pessah et Shavuot. Ve'atam, et la raison est shelol le'arbot besimcha, on ne veut pas faire des smachot, chez Botosman, mais tout Talmidei Rabbi Akiva. Parce que dans ce laps de temps, entre Pessah et Atzeret, les Talmidim de Rabbi Akiva sont morts. Vehu, donc ça c'est le tour. Vehu, et la source du tour, c'est Alpi Divra Gmara, c'est la fameuse Gmara dans Yevamot, qui dit, que vous connaissez tous, Amrou, Chachamim ont dit, Shne Masar Elef Zugim Talmidim Ayulol et Rabbi Akiva. Migevet Adam Tipras. Rabbi Akiva, il avait 12 000 paires d'élèves, mais ils n'étaient pas tous au même endroit, depuis Migevet jusqu'à Tipras. Vechulan, metu beperek echad. Ils sont tous morts dans un même laps de temps. Mipne, shelona agu kavod zebeze. Parce que ils ne se comportaient pas avec kavod l'un envers l'autre. Ad, donc, ils sont tous morts. Ad sheba rabbi akiva, et sel rabotem sheba darom. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva vienne auprès de nos maîtres qui étaient dans le sud. Veshana alaem. Et il leur a enseigné. Il y avait 5 Talmidim dans le sud. On verra tout ça. Et ces 5 Talmidim, eux donc sont les Talmidim de Rabbi Akiva, qui sont pas morts. Et c'est à partir d'eux que toute la Torah orale que nous avons, qui vient de Rabbi Akiva, elle est arrivée jusqu'à nous à travers eux et leurs élèves. Donc ces 5 Talmidim-là, dans les 5, il y avait par exemple Rabbi Meir et Rabbi Shimon, Rabbi aussi, mais voilà, ces 5-là. Alors, Tana, Kulan metu mipesach ad atzeret. Tous sont morts, tous les Talmidim qui sont morts entre Pessah et Shavuot. Vinezé Pashut. C'est clair que la raison pour laquelle on a fixé un temps de deuil, en quelque sorte, c'est parce qu'il nous manque la Torah de tous ces 12 000 paires d'élèves. Donc, c'est ça le deuil. Le deuil, c'est pas, c'est, si vous voulez, c'est très grave qu'il y ait 12 000 paires d'élèves qui aient disparu, mais on va, pour que ça devienne un deuil national, si on peut parler comme ça, qui dure toutes les générations, c'est bien sûr que c'est parce que ça touche l'essentiel, ça touche la Torah. Et donc, il est nécessaire de se demander c'est quoi la Torah que ces élèves-là auraient dû dévoiler qui n'ont pas dévoilé? Quelle est cette Torah qui nous manque? Sinon, on pourrait poser la même question, c'est-à-dire on pourrait dire, avec tous les Talmidei Chachamim qui ont été tués pendant la Shoah, il nous manque ce que ces milliers de Talmidei Chachamim auraient produit. Ça nous manque. Il nous manque une génération de Talmidei Chachamim. Ce qui fait que les gens de ma génération, par exemple, ils ont été les élèves de gens qui, en grande partie, auraient été leurs grands-parents et pas leurs parents. C'est la génération de leurs grands-parents, elle n'a pas la génération de leurs parents. Bien sûr, il y a, au Hachem, quelques personnes de la génération de nos parents qui ont survécu, mais une grande partie ont été tués. Et puis maintenant, on veut aussi poser la question, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on peut donner du sens au fait qu'ils sont morts entre Pessah et Shavuot? C'est un temps particulier entre Pessah et Shavuot. C'est le temps de la Sfirat HaOmer. La Sfirat HaOmer, ça n'a rien d'un deuil, c'est au contraire une période où on se construit, on construit un temps nouveau, etc. On en a parlé quand on a parlé de David HaMelech. La Gemara, dans Menachot, elle dit « Amar Rav Yehuda Amar Rav, que She'ala Moshe Lamarom » ça vous connaissez aussi, quand Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir la Torah, il a trouvé qu'Akadosh Baruch Hu était assis et Kosher Ktarim La'otiot. Il a trouvé qu'Akadosh Baruch Hu était là et assis et il nouait des couronnes aux lettres. C'est ces petites couronnes dont je vous ai parlé. Amar lefanav, Moshe Rabbeinu a dit, Ribono shel olam, maître du monde, mi me'akev al yadcha, qui t'empêche de nous donner la Torah? Pourquoi il y a encore définition à faire? Amar lo, donc Moshe Rabbeinu ne comprenait pas c'est quoi ces petites les kiki, les trois petits traits. On ne peut pas appeler ça des enluminures ou des choses comme ça, c'est les trois petits traits. Alors Hachem lui a dit, Adam echad yesh, she'atid liot besof kamadorot. Il y a quelqu'un qui va apparaître au bout de quelques générations, ve'akiva ben Yosef shmo. Il s'appelle Akiva ben Yosef. She'atid lidrosh, lui, il va rendre significatif. Al kol kotz ve kotz, tilé tilim shel halacha. Sur chacune de ces petits traits, c'est Akiva ben Yosef, il va être doresh des montagnes de halachot. Alors Moshe Rabbeinu a dit, Moshe Ribono shel olam, yesh lecha adam kaze, ve'ata noten haTorah al yadi. Tu as un homme pareil et tu donnes la Torah par mon intermédiaire. C'est par lui qu'il faut donner la Torah. Et là-dessus, vous souvenez, on a parlé de ça. Hachem lui a dit, shtok, tais-toi. Kach al tab et marshava lefanai. C'est comme ça que c'est monté à la pensée devant moi. Cette expression, on en avait parlé un peu la dernière fois. C'est difficile à comprendre. Donc on voit que quand Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir la Torah, il a vu en quelque sorte Rabbi Akiva, il a compris que c'est lui qui devrait normalement transmettre la Torah, et c'est écrit dans la Torah, dans les enseignements du Harizal, chez Rabbi Akiva, il y a Av. Le Torah chez Balpé, que Rabbi Akiva était un père, un patriarche, si vous voulez, pour la Torah chez Balpé, de la même manière que Moshe Rabbeinu était un père, un patriarche, pour la Torah chez Birtav. Donc le symétrique de Moshe Rabbeinu Au Torah, chez Baal Peh, c'est Rabbi Akiva. Mais on comprend que Moshe Rabbeinu est dit, mais c'est par lui qu'il faut donner la Torah. Puisque, en fait, d'après la vérité, en vérité, il est un père de la Torah. Et Rabbi Akiva, c'était celui dont on dit là qu'il est doré justement ces fameuses couronnes sur les lettres. Et c'est de quoi on parle? Ici, on parle de ces tagim, ça s'appelle. Marzikim betoram aketer, chez la otiot. C'est-à-dire ces trois petits traits là, ils représentent, ils contiennent toute la dimension de couronne des lettres. Et on sait que c'est la part de la Torah qui est au-dessus de ce qu'on comprend d'ordinaire de la Torah. Parce que au niveau des couronnes, nous on n'y comprend rien. Si vous voulez, ces couronnes, elles, d'une certaine manière, elles ne sont pas vraiment de ce monde. Et donc, on va essayer de voir d'un peu plus près ce que c'est justement que cette Torah de Rabbi Akiva en particulier. Cette Torah qui a à voir avec ces couronnes. On peut dire, de première approximation, on peut dire ce qu'on dit dans Pirkei Avot, Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Chol Yom Vayom, chaque jour, Bat Kol Yotzet Me'ar Chorev, il y a un Bat Kol qui sort du Sinaï et qui proclame Oy Lahem Labriot Me'el Bono Shel Torah, malheur à toutes les créatures de l'humiliation de la Torah. Chez Kolmi, chez Noosek Batorah, Nikra Nizouf. Parce que tout celui qui ne s'occupe pas de Torah du tout, il est appelé méprisable, en fait, disons. On voit donc que ce qu'on appelle Mamad Har Sinaï, c'est-à-dire le moment Sinaï, c'est le but de la gloire de la Torah. Et c'est pour ça que on revendique justement cette gloire de la Torah. Parce que, évidemment, le Elbon, c'est-à-dire l'humiliation, c'est le contraire du Kavod. C'est le mépris, etc. C'est évidemment le contraire du Kavod. Et comme on voit que le Har Sinaï, le Sinaï ne supporte pas cette bat kol qui sort du Sinaï. C'est comme le Sinaï produit un cri, en fait. Je ne supporte pas cette humiliation, ce mépris de la Torah. Dire que, essentiellement, il s'agit ici d'un dévoilement de la gloire de la Torah. Ça, c'est au premier abord. L'explication, c'est que ce qu'on appelle le kavod de la Torah, c'est la façon dont la Torah se dévoile et la façon dont la Torah est reçue par ceux auxquels la Torah a été donnée. Et là-dessus, il y a un din qui s'appelle Moré Melech, qui est la crainte qu'on doit manifester devant le roi. Parce que c'est normal qu'il y ait une gloire, un kavod, qui est du poids, qui soit donné à la royauté, au roi. On en a parlé avec David Amelech, vous vous souvenez, on a rapporté que la bracha qu'on fait quand on voit un roi, même que ce soit un roi juif ou un roi goy, De toute manière, la bracha, elle parle du kavod d'Hachem qui a été donné ou partagé par Hachem avec le roi. C'est-à-dire que la royauté, elle a droit à un kavod qui est un kavod qui vient à Hachem. Donc, le kavod, c'est une expression de la forme de crainte révérentielle qui vient sur celui qui est en face du roi, en quelque sorte. Donc, Chazal disent, à partir du verset qui dit que, qui nous explique, disons, que le Tachlit, le but du Mamad Har Sinai, c'était ou ba'avur tiye irato al pnechem lebilti techetau. Hachem s'est manifesté pour que sa crainte soit sur vous et qu'ainsi vous ne fautiez pas. Donc on voit que ce dévoilement de crainte, en réalité, c'est lui qui éveille le kavod, le poids qu'on doit donner à la royauté. Sur Matan Torah, la Gemara, elle dit, Vatiferet, la splendeur, Zé Matan Torah. Donc on voit que le Mahamad Har Sinai, le moment Sinai, c'est un dévoilement de la splendeur et de la gloire du kavod, donc d'Hachem. Et donc, on comprend ce qu'est effectivement le fameux bat kol qui sort du Sinaï et qui proteste à haute voix contre le mépris, contre le manque de kavod donné à la Torah. Parce que le mépris de la Torah, c'est pratiquement complètement contraire à ce que devait être le Mamad Har Sinai. Le moment Sinai, c'est un moment où la gloire d'Hachem, où la gloire de la Torah, elle doit se manifester. Mais si maintenant, donc ce lieu-là, c'est un lieu qui appelle à la manifestation de la gloire divine. Et donc c'est une expression, il y a une sensibilité, si vous voulez, du Sinai à ce rayonnement de gloire de la Torah, et du coup, dès le moment où effectivement il y a mépris de la Torah, alors c'est le Sinaï qui proteste. En vérité, de la même manière que la lumière de la Torah est reçue par les hommes, de cette même manière, la gloire de la Torah se dévoile. C'est-à-dire, si on comprend ce qu'est la lumière de la Torah, alors automatiquement, c'est une façon de dévoiler le kavod de la Torah. Or, sur le Sinaï, il y a eu cette idée d'une descente du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Donc c'est pour ça que cet endroit-là, ce Mamad Har Sinai, c'était un dévoilement du Kavod, mais qu'en vérité, la Kabbalat HaTorah, concrètement, elle n'a pas été terminée au moment Sinaï. Parce que le but du Mamad Har Sinai, c'était de recevoir les tables de la loi. Hachem s'est manifesté au Sinaï, il a dit, et après Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir les tables. Donc on voit très bien que tout n'était pas terminé au Sinaï. Il fallait encore que Moshe monte et ramène les luchot. Et puisque les Israël ont fauté avec le mot d'or, et que Chazal dise pratiquement, c'est quasiment une infidélité de la Kala sous la Choupa, de le clan d'Israël, qui est la Kala, elle a été infidèle à Hachem sous la Choupa même, au moment du mariage du clan d'Israël avec Hachem, qui était le Mamad Har Sinaï. Donc le dévoilement de la Torah dans le monde d'en bas, il n'a pas eu lieu dans sa plénitude. Puisque les premières tables n'ont pas été reçues. Ça veut dire qu'on n'a pas fini. Ça n'a pas été terminé. Normalement, cette lumière d'en haut, elle, qui était dans la gravure des premières louchot, elle aurait dû descendre, elle aurait dû exister dans le monde d'en bas. Elle n'a pas existé puisque Moshe Rabbeinu l'a brisée. Donc, ce qui ne s'est pas manifesté à cause des louchot, d'une certaine manière, ça s'est perdu ou s'est allé. C'est là dans la création, c'est quelque part dans l'infini, quoi. Dans l'infini. Et on sait que le dévoilement, il a lieu dans les processus de fabrication, de construction de la Torah Shebalpé, de la Torah orale. Donc, les profondeurs de la Torah, les choses les plus profondes de la Torah, elles s'actualisent, elles se réalisent justement dans le Esther et dans le LM, c'est-à-dire dans ce qui est caché, en quelque sorte. Quand on dit que la parole divine, en quelque sorte, a été gravée sur les louchot. C'est-à-dire que, a priori, la matière, c'est très très difficile d'imaginer comment la lumière spirituelle s'est gravée dans de la matière. Mais finalement, il s'est passé que c'est la Torah, elle est devenue une la Torah gravée en quelque sorte, elle est une, elle fait corps, elle est un, c'est la même chose que la Torah elle-même dans l'abstrait. Mais c'est ça le niveau de la Torah chez Balpé. Torah orale. Qu'est-ce que c'est la Torah orale? C'est que des gens qui ont des hommes avec un corps, ils deviennent capables de produire de la Torah à partir d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que la Torah est en quelque sorte gravée sur leur cœur. Donc, ils deviennent eux-mêmes ce qu'on appelle un Chefetz Shel Torah, ils deviennent eux-mêmes de la Torah, ils deviennent Torah. Quand on a reçu la Torah, hein, alors, même dans des générations qui sont très loin du moment où elle s'est révélée au Sinaï, ce qui se dévoile, c'était une profondeur qui n'a pas pu se dévoiler au temps de Moshe Rabbeinu. Donc, c'est ça l'idée que Rabbi Akiva, il est, enfin disons, cette notion de Rabbi Akiva, il est mekabel la Torah, il a reçu la Torah, parce que c'est lui qui a dévoilé les profondeurs de la Torah dans l'obscurité dans laquelle les Bnei Israël étaient à ce moment-là. Rabbi Akiva, il vit au moment de l'occupation romaine, au moment où vous savez bien que les Grecs et les Romains, par opposition aux Assyriens, aux Perses, etc., ils ont interdit l'étude de la Torah. Donc, les autres, ils nous ont fait souffrir, ce qu'on veut, mais ils n'ont pas interdit l'étude. Aman, il entre dans le Beth Amidrash, il voit les Hadarim, il voit les enfants étudier la Torah. Ce n'est pas interdit en Perse, en Galoute de Perse. Et chez les Grecs et les Romains, oui, c'est interdit. Et les gens, et ça coûte les gens qui étudient et qui enseignent, c'est au péril de leur vie. C'est ce qui arrive à Rabbi Akiva, d'ailleurs. Donc on voit que Rabbi Akiva, dont on dit qu'il était Doresh, les Kitré Otiot, les couronnes des lettres, parce que la couronne, c'est l'importance cachée des lettres de la Torah. C'est dans la couronne que réside l'importance cachée des lettres de la Torah. C'est-à-dire ce qu'on appelle la Torah du Sod, la Torah cachée, qui est effectivement cachée parce que dans la nature, on est dans l'obscurité. Et pour cette raison, on n'a pas accès du tout à ce monde-là, à ce monde de l'extrême luminosité, en fait. Rabbi Akiva, il a dévoilé, grâce à son Messirut Nefesh, il s'est sacrifié pour cela, une profondeur de la Torah qui dévoile dans le monde matériel, enfin, qui dévoile que le monde matériel est aussi un monde spirituel. Qu'en réalité, ce qui est matériel, en fait, c'est seulement comme un vêtement, si vous voulez, de quelque chose de spirituel. C'est ça la couronne de la Torah. C'est le summum du summum. Parce que c'est ça qui dévoile réellement, complètement, la gloire de la Torah, cette gloire qui ne s'est pas complètement dévoilée au Sinaï à cause du veau d'or. Moshe Rabbeinu lui-même, il ne comprenait pas vraiment ce que Rabbi Akiva était d'Oresh. Parce que à ce niveau-là, au niveau du Sod, la Gemara dans Maseret Hagiga, elle dit que le Chacham, il est Mevin Midato. Quand il y a un Chacham qui est capable de comprendre par lui-même, alors on lui donne les têtes de chapitre du Sod. C'est-à-dire les têtes de chapitre de l'intériorité de la Torah. Alors, on explique que c'est quoi les têtes de chapitre? C'est justement les couronnes des lettres. Et c'est grâce à sa Chochmah, à sa Binah, à son Dat, qu'il est capable d'être Doresh et donc de dévoiler ce qu'il y a là-dedans, ce qu'il y a dans ses couronnes. dans la Mishnah, dans Masechet Sota, Mishemet Rabbi Akiva, quand Rabbi Akiva est mort, alors le kavod de la Torah a disparu. Et Rashi explique pourquoi. Parce que Rabbi Akiva y a noté libo, il y mettait tout son être pour être d'oresh chacune de ses petites couronnes, sur chacune des lettres. La plus forte raison qu'il interprétait aussi les lettres elles-mêmes. Il interprétait aussi toutes les, chaque fois qu'il y avait une lettre supplémentaire. Chazal disent dans Sanhedrin que il est d'oresh quand c'est écrit dans la Torah bat, la fille, et qu'à un autre endroit c'est écrit ou bat et bat. Rabbi Akiva, il va évidemment s'attacher à expliquer, à donner du sens à ce vav supplémentaire. C'est ça le kavod de la Torah. C'est de bien montrer que dans la Torah, tout est significatif. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Akiva, c'est celui qui donne toute son importance au kavod de la Torah, puisque c'est lui qui va même rendre significatives les petites couronnes. Donc, tout dans la Torah. Et il n'y a que Rabbi Akiva qui fait ce travail. Dans le travail que nous faisons dans Sfirat HaOmer, il y a un dévoilement, évidemment, puisqu'on se prépare à recevoir la Torah, il y a un dévoilement de ce que c'est vraiment que la Torah. Et pour montrer que même dans les lois de la nature, c'est les lois qui gouvernent le fonctionnement du monde d'en bas, si vous voulez, ça aussi, ça peut se transformer complètement en Torah. C'est le contenu de ce qu'on appelle Torah Shebaal Peh. Que plus la Torah rayonne dans les endroits qui nous semblent inaccessibles à cette lumière, justement, plus les profondeurs de la Torah peuvent se dévoiler. Justement, dans ces endroits où on ne s'attend pas à un dévoilement possible de la Torah, c'est là-bas que les choses les plus profondes peuvent se dévoiler. Donc, on comprend un peu mieux le travail de Rabbi Akiva. De la même manière que mon cher Rabbeinu, d'une certaine manière, il était le Har Sinaï. Les Bnei Israël ont dû se préparer à travers les 49 jours du Homer jusqu'à devenir capables de recevoir la Torah comme Moshe Rabbeinu. De la même manière, les Talmidim de Rabbi Akiva, ils auraient dû s'élever justement à travers ce processus du Homer. Et donc, se préparer à cette nouvelle édition de Kabbalat HaTorah, de la Kabbalat HaTorah version Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, il fait la même chose que Moshe Rabbeinu, mais dans le domaine de la Torah, Shebaal Peh. Donc, il est, Rabbi Akiva, il est lui aussi Sinaï. Et les Talmidim, a priori, les Talmidim, ils correspondent à la Sphira, c'est-à-dire à toutes les étapes qui y mènent. Donc, en fait, ils allaient en direction du Har Sinaï, qui est le dévoilement de la gloire de la Torah. Donc, normalement, ils devaient arriver à restituer le kavod de la Torah comme il était au moment où la Torah a été donnée. Parce qu'il faut aller vers le Sinaï. Donc maintenant, puisqu'on a dit que la Torah de Rabbi Akiva, c'est le dévoilement de la gloire de la Torah, le dévoilement du kavod, du poids de la Torah. Et du coup, maintenant, si on dit « Shelo nahagu kavod ze beze », ils ne se sont pas donné du kavod, ils ne se sont pas donné du poids les uns aux autres. A priori, c'était la, c'est le défaut majeur, puisque eux, en fait, ils étaient en lien avec Rabbi Akiva. Donc, ça ne veut pas dire que c'est que y a pas ne pas se donner du kavod dont on parle à leur sujet. C'est pas que ça manquait de Derech Eretz, ils ne s'ouvraient pas la porte les uns aux autres ou ne disaient pas merci, etc. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ça veut dire que ils n'ont pas vraiment compris que chacun d'entre eux se trouve à un niveau tel que il peut être Rabbi Akiva. De la même manière qu'au Sinaï, Hachem a fait expérimenter au Bnei Israël ce que Moshe entendait quand Hachem lui parlait. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, je vais me dévoiler à eux et ils vont m'entendre comme toi tu m'entends et comme ça ils auront confiance quand tu leur diras Hachem m'a dit, ils pourront avoir confiance parce qu'ils savent ce que c'est, ils savent que c'est possible puisqu'ils l'auront expérimenté eux-mêmes. Bon, alors les Bnei Israël, ils ont été capables de tenir le coup sur deux paroles. Malheureusement, ils n'ont pas tenu le coup sur les 10. Les Talmidim de Rabbi Akiva, ils auraient dû faire la même chose. Tous les Bnei Israël au Sinaï, ils étaient comme Moshe pendant un très court laps de temps. Les Talmidim de Rabbi Akiva, ils auraient dû être comme Rabbi Akiva pendant un même laps de temps. Aussi un court laps de temps. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment compris que leur Beit HaMidrash était un Beit HaMidrash qui devait dévoiler au monde la fameuse couronne des lettres, c'est-à-dire la lumière la plus intérieure du Sinaï. Et c'est la raison pour laquelle ils ont disparu entre Pessah et Atzeret. Parce que justement, ils n'ont pas été capables de comprendre qu'ils devaient utiliser la rampe de lancement, en quelque sorte, de la Sfirat HaOmer. Comprendre que chacun d'entre eux peut arriver à devenir Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que la Torah nous a été donnée après la préparation de Sfirat HaOmer. C'est-à-dire un Sfirat HaOmer qui va de Pessah à Shavuot. Donc. Voilà, dans Tosfot, dans Maseret Ktuvot, qui parle du beau-père de Rabbi Akiva, qui s'appelait Kalba Savoie, qui était un richissime homme d'affaires. Et quand la fille de Kalba Savoie, donc qui s'est finalement mariée, la fameuse Rachel, qui s'est mariée avec Rabbi Akiva, alors que Rabbi Akiva était un amarès, était ignorant au moment où ils se sont mariés. Il a 40 balais et il ne sait rien. C'est un amaretz. Alors, Kalba Savoie, il était tellement vexé, en quelque sorte, que sa fille épouse un amaretz, que Kalba Savoie a fait un neder que Rabbi Akiva ne pourra pas profiter de ses biens. Et finalement, quand Rabbi Akiva est devenu ce qu'il est devenu, alors Kalba Savoie, il est allé être Shoel sur son éder. Il est allé demander l'annulation de son éder. En disant, quand on veut annuler un éder, il faut dire quelque chose qui explique que si j'avais su, je n'aurais pas fait mon éder. Donc il vient et il dit, si j'avais su que Rabbi Akiva était un grand bonhomme comme ça, j'aurais jamais fait un éder pour l'empêcher de profiter de mes biens. Au contraire. Et Tosfot pose la question, il dit, mais on ne permet pas un éder en potrin benolad. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser comme pétard, comme ouverture du néder, pour annuler le néder, quelque chose qui est de l'ordre du nolad, quelque chose qui est apparu à un moment bien précis et qui n'existait pas au moment où il a fait le néder. Tu peux dire, il y avait quelque chose qui existait quand j'ai fait le néder, mais moi je ne le connaissais pas, je ne savais pas. Si j'avais su, alors ça marche. Mais dire que je ne savais pas qu'il allait devenir, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai fait le neder, je savais exactement qui j'avais en face de moi, il était un amarès, et on ne peut pas utiliser le fait si j'avais su qu'il allait devenir. C'est l'objection de Tosfot. Et pourtant, on a été matir le neder de Kalba Savoie. Tosfot répond, « De'acha lo chashiv nolad » כיוון שהלך לבירב. ודרך הוא הולך ללמוד שנעשה אדם גדול. Tosfot répond, c'est pas nolad. Parce que quand Kalba Savoie a fait son éder, Rabbi Akiva, il était déjà en train d'aller étudier chez quelqu'un. Il avait un maître. Et Tosfot dit, c'est l'ordre du monde que quand quelqu'un va étudier, il devient un grand homme. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas du nolad. Il était déjà, parce qu'il a commencé, il était au début. Donc, on voit, de ce que dit Tosfot, que puisque finalement, il devient Adam Gadol, ça veut dire que dès le moment où il a commencé à étudier, bon, c'était déjà là, d'une certaine manière. Et ce n'est pas nolad, pas quelque chose qui est né. au milieu du laps de temps en question. Mais c'est ça que les Talmidim de Rabbi Akiva n'ont pas compris. Ils n'ont pas vraiment compris que quand on va étudier la Torah chez Rabbi Akiva, alors on est déjà potentiellement un Talmid Racham comme Rabbi Akiva. Même quand on est au tout début du chemin. Ils n'ont pas été capables de voir dans les autres des Rabbi Akiva en puissance. C'est ça que le Kabbalah qu'ils ne se sont pas donné. Ils n'ont pas donné du poids à quelqu'un qui était un élève de Rabbi Akiva. Ils pensaient que puisqu'il est un élève de Rabbi Akiva, puisqu'il étudie chez Rabbi Akiva, s'il étudie sérieusement, il va grandir. Chez les Bnei Israël, au Sinaï, c'est devenu comme Moshe Rabbeinu. Bon, ils se sont un peu préparés. Mais là, c'était, Hachem leur a donné tout ça. C'est beaucoup donné. Parce qu'on est, le clan Israël, il est en train de, il est dans sa prime jeunesse à ce moment-là. Au temps de Rabbi Akiva, on est plus avancé. On peut ajouter un petit peu la chose suivante. Les Kadmonim, les maîtres anciens, disent que Omer, Aïn Memrech, c'est la même gematria que Yesh. C'est aussi la gematria de Keri. N'est-ce pas cette gematria de 310, c'est aussi la même gematria de Keri, Koufresh Yud. Et avec cette remarque-là, ces gematriotes, on peut comprendre le lien qui existe entre le Homer et la victoire des Bnei Israël à Pourim. La victoire des Bnei Israël, elle a pris le chemin de quelque chose qui semblait être de l'ordre du mikré, du hasard, enfin, ce qu'on pourrait appeler hasard. Mais d'après ce qu'on a vu, c'est encore un peu plus profond que cela. Parce que c'est aussi la gematria de Yakar, Yud Kufresh, qui veut dire précieux, qui veut aussi dire Kavod. Pourquoi? Parce que au moment du Homer, on doit dévoiler la préciosité et la gloire de la Torah de telle sorte, enfin, par le chemin que de la compréhension de la lumière qu'est la Torah, et de comprendre que cette lumière, elle arrive à éclairer même les profondeurs les plus profondes du mal dans la nature. C'est pour ça qu'à Purim, on dit la Yudim Aïta, Ora, Vesimcha, Vesasson, Vikar. Razal disent dans la Gemara de Megillah, Yakar, Zetfilin. Pourquoi? Parce que c'est Imte. La réalisation de Imtel Khuimi Keri. dans les klalot qu'on a lues à Bechukotai. Hachem dit, si vous allez avec moi, en attribuant au hasard tout ce qui vous arrive, je vous envoie des messages, et au lieu de lire les messages, je vous dis, non, ça c'est le hasard, c'est comme ça, c'est les lois du monde, etc. Alors, les tefilines, c'est ce qui permet de prendre ces mots de Kouf Reshyud et de le lire Yakar. C'est les mêmes lettres. Pas seulement la même gématria, mais c'est même les mêmes lettres. Et donc, les tefilines, c'est ce qui montre en quelque sorte la gloire de la Torah. C'est marqué que V'ra'u kol amei ha'aretz ki shem Hashem nikra alecha. Les tefilines shel Yah, shel Rosh, qui publie que le nom divin est sur les hommes du clan Israël. Donc on comprend bien le fait d'avoir fixé à cette période de Yemei HaSfira une période de deuil à cause de la mort des Talmidim de Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, il devait dévoiler dans le monde la Mesirut Nefesh, pardon, la Mesirut de la Torah chez Balpé. Il fallait montrer la transmission de la Torah chez Balpé, qui est le but, c'est ça la gloire de la Torah, c'est de montrer que la Torah est reconnue, qu'elle est transmise partout. Et comme ça n'a pas marché, puisque les élèves n'ont pas fait le travail, alors il nous manque ce niveau-là qui est le niveau fondamental de la Torah. Alors, c'est ce qu'on dit dans la Braïta qu'on a vue, que le bat kol, il proclame Oilahem les briot mi elbonach et Torah, parce que toute personne qui ne s'occupe pas de Torah, il est méprisable en fait, il est rien du tout. Ça veut dire que il mérite d'être giflé, qu'on le jette quoi, quelque part. Pourquoi? Parce que si tu touches à la gloire de la Torah, tu mérites cette nézifa, tu mérites d'être chassé en quelque sorte. Mais on sait que la loi de celui qui mérite d'être chassé et la loi de la veloute, elles ont un din en commun. Et la veloute des jours de la Sphira, donc elle entraîne, elle nous entraîne à nous comporter comme des gens qui, c'est la veloute, mais c'est les mêmes dinim que les gens qui sont quasiment rejetés de la Torah. Et bien sûr, ce n'est pas à cause des élèves eux-mêmes qui sont morts. Parce que on porte un deuil sur n'importe quelle personne cachère qui est morte. Mais si la veloute sur la Torah, elle, quelque part, elle vient de ce que on ne s'est pas occupé de la Torah. On n'a pas travaillé, ils n'ont pas travaillé la Torah pour qu'elle soit dans l'état dans lequel elle était, quand elle a été donnée. La Torah est donnée, Moshe Rabbeinu, il a reçu aussi la Torah chez Balpé. Il a reçu la Torah chez Balpé, mais elle était en quelque sorte fermée. Elle était compacte, fermée. C'est Rabbi Akiva qui l'a ouverte. Lui, il a vraiment reçu la Torah. Mais, justement, de même que Moshe Rabbeinu, il avait d'une certaine manière besoin que les Bnei Israël fassent une expérience analogue à la sienne pour qu'ils puissent le reconnaître, pour qu'ils puissent accepter pour que ça diffuse, effectivement, qu'on accepte dans tout le clan d'Israël l'enseignement de Moshe Rabbeinu. De la même manière, pour que la Torah soit diffusée dans la Torah Shebalpé, soit diffusée dans le clan d'Israël. Les élèves auraient dû faire ce même travail par rapport à la Torah de Rabbi Akiva. Expérimenter. Comment ils pouvaient l'expérimenter? Justement, dans la Sphira, en utilisant cette échelle de la Sphira, ils auraient dû comprendre. Chacun d'entre eux, parce qu'il est un élève de Rabbi Akiva, peut devenir Rabbi Akiva. Et c'est ça que nous pleurons, c'est là-dessus que nous sommes endeuillés, mais aussi, en quelque sorte, presque benidouille, presque des gens qui sont mis en kherem, quoi. C'est les mêmes, parce que c'est les mêmes comportements. Pas de vraie relation avec les gens qui sont endeuillés, on ne peut pas discuter de n'importe quoi, on ne peut pas étudier la Torah avec eux. Ils sont des vêtements, ils portent le deuil sur leurs vêtements, sur la façon dont ils sont assis, etc. On a vu donc que Rabbi Akiva, qui était comme Moshe Rabbeinu, mais sur la Torah chez Balpé, on va voir un petit peu mieux ce qu'il y avait de spécifique chez Rabbi Akiva et ses élèves pour qu'ils puissent dévoiler la Torah qui est cachée, la Torah qui est en fait qui a été transmise à Moshe Rabbeinu, mais de façon cachée. Elle n'est pas ouverte, même pour Moshe Rabbeinu. Il faut qu'on comprenne pourquoi, justement, dans la génération des Talmidim de Rabbi Akiva, cette histoire-là s'est réglée. Et pourquoi c'est arrivé, justement, que ça devait se régler complètement. Ça ne s'est de nouveau pas réglé complètement parce que le Nagu Kavod Zébézé. Les Minagim d'Avelout pour tout le clan d'Israël, on n'en trouve que par rapport à la destruction du Beit HaMikdash. Comme il est Beit Hayeinu, le Beit HaMikdash, alors, il y a Beit Chayeinu, c'est la vie. Donc, il y a une notion de mort, en quelque sorte, dans cette destruction. Et donc, il y a les dinim d'Avelout. Mais d'où est-ce qu'on sait, où est-ce qu'on a pris ce din, justement, que la mort des Talmidim de Rabbi Akiva nous oblige de pratiquer les dinim d'Avelout. Il y a une gemara dans Avodah Zarah qui dit Tanat be'Eliyahu, Sheshet alafim ave olam. Le monde, il va durer 6000 ans. 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah, et 2000 ans de Yemot HaMashiach. A priori, après les 2000 ans de Torah, le monde devrait grimper encore un peu plus haut et atteindre ces fameux Yemot HaMashiach. Mais le Baal de Vilna donne un pshat différent. Il dit dans son commentaire sur Shir HaShirim, il dit comme ça, « Achar shegalinu me'artseinu » après que nous ayons été exilés de notre terre, « venitrachaknu me'aladmateinu » nous avons été éloignés de notre terre, Shehu Bet Amigdash, Admatenu c'est le Bet Amigdash, Ein lanu lo Torah, on n'a pas de Torah, comme c'est marqué, Malka Vesarea Vagoyim Ein Torah, c'est dans Echa, son roi et ses princes sont parmi les Goyim, sont exilés donc. Ein Torah, il n'y a pas de Torah. Et voilà ce que dit le Gaon. Et il explique, dans son commentaire sur Sifra de Sniouta, il explique qui a Torah nistayem venelam besof arbat alafim shana. La Torah, elle a été fermée et cachée après les 4000 ans. Comme on le sait. On le sait, c'est on le sait. Le Gaon de Vilna dit qu'on le sait. Bavonotinu chez Yatsu, et par nos fautes, tout ce temps a passé. Ein Torah ve'en Mashiach. Parce que Utou Begalut, chez Zivug, Bofanash Shnaim, chez Midgalgelim, en fait, Beofen Hashanim, pardon, chez Midgalgelim, colle toutes les 974 générations. Chehen Aerev Rav, Chehen Aneshamot, Meolam Atou, qui sont les âmes du monde du Tou. Je vais essayer d'expliquer après. Et là-bas, il explique qu'après 4000 ans, Chazar le Tour, c'est-à-dire après 4000 ans, au lieu de passer à Yemot HaMashiach, on a reculé et on s'est retrouvé dans les mêmes 2000 ans du départ, qui sont les 2000 ans de l'errance, en fait, ou du Tour, du chaos. Et Mefourash Bidvarav, qu'on voit clairement dans le Gaon, qu'après la destruction du Beth Amikdash, le monde est retombé dans le Tohu. D'une certaine manière, le mariage entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël et le clan Israël n'a pas eu lieu. La Gemara dans Chagiga, elle dit à peu près la même chose, elle dit Kevan shegalu en lechabitul Torah gadol mizeh. Quand les Bnei Israël sont partis en galout, il n'y a pas de bitul Torah plus grand que celui-là. Avec tout ce qu'on a produit en galout, le Talmud Bavli, etc., tout ça. Mais la Gemara dit en lechabitul Torah gadol mizeh. C'est une Gemara qui était écrite en Babel. Explication un peu. Dans le Passouk, dans le Navi, Chayaou, c'est écrit L'Otou Braha, la Shemet Yitzara. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé la terre pour le Tohu. Il l'a créée pour qu'on habite la terre. Donc on voit que Tohu, c'est le contraire de la Shemet, d'habiter. C'est-à-dire habiter, c'est ici utilisé la Shevet Yitzara, habiter. Donc on voit le tachlit de la Bria, le but de la création, c'est qui est la présence divine dans le Beit HaMikdash, qui est en quelque sorte la résidence d'Hachem et du clan d'Israël, résidence commune. C'est ça la vraie réalisation de ce « la Shevet Yitzara » que Hachem a créé le monde, la Shevet, pour y habiter. Dans le Passouk, c'est marqué « Ketiferet Adam, la Shevet Bait, c'est-à-dire que Shevet, c'est dans une maison. Et cette maison, c'est le Beth Amigdash, bien sûr. Donc, le Ramban, au début de Parshat Truma, il dit que le Beth Amigdash, c'est la continuation du Mamad Har Sinai. Ça, on a vu, je pense, dans le Shiur de Chumash, que le Beth Amigdash, c'est une espèce de Sinai portatif pour le Ramban. C'est-à-dire pour le Ramban, le Sinai n'a jamais fini. Le Kavod Sinai, c'est ce Kavod-là qui réside dans le Mishkan. Donc, ça veut dire, tant que le Beth Amigdash est debout, alors on est au Sinai, et au Sinai, c'est le mariage entre le Kal Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire on est dans les Alpaim Shel Torah, on est dans les 2000 ans de Torah. Mais quand le Beth Amigdash est détruit, on retombe au Taou. Il n'y a plus de Baït, donc il n'y a plus le Shevet. Et du coup, on n'est même plus ensemble, si on peut parler comme ça. On peut expliquer encore un petit peu mieux. Tohu, le Tohu, c'est... On peut voir ça comme de la matière informée, c'est-à-dire non formée. Vous savez bien qu'il y a une notion de... Il y a la matière et il y a la forme. Alors, il y a la matière brute, quoi, si vous voulez. Et puis, la forme va se mettre sur cette matière et lui donner une forme. Le Tohu, c'est quand la matière n'a pas encore reçu de forme du tout. La lumière de la Torah, c'est la forme qui doit s'appliquer sur la matière et la faire sortir de son état de Tohu, justement. Et le Chachamim m'explique que c'est pour ça que dans Maaseh Bereshit, le mot or, la lumière, il est écrit 5 fois. Et le Rabbeinu Mechaye, par exemple, il explique que ça correspond au Chamisha Chumshe Torah. Les Chamisha Chumshe Torah, ils viennent nous sortir, nous extraire de Vaharet Saita Tohu Vavohu. Il faut sortir, justement, de l'état où la terre était Tohu Vavohu. C'est-à-dire que la lumière de la Torah, elle vient sortir extraire du Tohu. On se marquait dans la Gemara que le Beth Amigdash, il est appelé Oro Shel Olam, la lumière du monde. C'est pour ça que dans la prière, dans la Tfila, on dit Or Chadash al Sion Tahir, qu'une lumière nouvelle sur Sion, sur le Beth Amigdash, Rayon, qui va chez Metzion Tetzé Torah, que puisque de Sion sort la Torah, alors on sait bien que c'est Ora Shel Torah, la lumière de la Torah est dans le monde. Comment elle y est? Par la construction du Beth Amigdash. Et ultimement par la lumière du Mashiach. Et donc, on peut essayer d'entendre pourquoi ou comment les 2000 ans du Mashiach sont devenus 2000 ans de Tohu. à la suite de la destruction du Beth Amikdash. Puisque le tachlit, le but du Mashiach ben David, c'est d'accomplir ce qui est dit dans Chazava Ishmu, Ishmu Rechokim Biavou, que les gens qui sont loin viennent, enfin, ils vont entendre, ils vont venir. Et comme on a dit de David Ameler, je vous avais dit qu'il était, ouais, qui, David, c'est celui qui est Kim ou Lachel Tshuva, c'est-à-dire celui qui va ramener tout le mal. Il va le mettre au service du bien, tout le mal, c'est-à-dire tout Moab, tous les 49 portiques de la Touma de Moab, il va les transformer en 49 portiques de Tahara, de Kdusha, et il va restaurer en quelque sorte ce fameux Keter Melucha, cette couronne de la royauté. Et donc, en fait, ce qu'on a, on avait vu ça dans le Shiur sur David, que même du mal le plus profond, la lumière de la Torah peut sortir, en fait. Donc, on peut passer du Tohu à la Torah. Donc, c'est justement parce que le monde retourne dans sa situation de Tohu qu'il y a une possibilité de dévoiler Sod Kol HaSodot, le secret des secrets, qui est que même le Tohu, en vérité, c'est la lumière. Et c'est ça le dévoilement des profondeurs de la Torah Shebaal Peh. Que de la même manière que la Torah, elle ne devient lumière que grâce aux hommes, aux êtres de chair et de sang, des gens qui ont un corps. De la même manière, le Tohu devient or, il devient lumière. Et ça montre que tout le chomer, toute la matière, c'est en vérité de la Torah. Si vous voulez, tout ce qui a été créé d'après la Torah. La Torah, c'est la parole d'Hachem. Donc, en vérité, dans toute chose qui existe est en quelque sorte une réalisation, une concrétisation d'une parole divine. C'est-à-dire de la Torah. Donc, si on veut que ce travail doit être fait par le Mashiach, en fait, de transformer tout le Chomer en Torah, toute la matière en lumière en Torah, alors, il faut que toutes les parties du mal et du Tohu, en quelque sorte, s'actualise pour permettre que la lumière du Mashiach vienne et les forme en quelque sorte et les retourne complètement. C'est ce qu'on a dit sur la voix de David, en fait. C'est ça cette idée que les Alpaim, Yemot HaMashiach, sont en réalité les Alpaim de Tohu. Sauf que, grâce au Mashiach, grâce à David Amer, qui vient de Moab, qui prend les 49 portiques de Touma et qui les retourne complètement, déjà le travail qui a été fait par Ruth à Moabite, c'est lui qui les transforme et il en fait de la Torah. Parce que c'est de cette manière-là donc, tout doit retourner au Tohu pour pouvoir passer. C'est que du plus profond du mal qu'on arrive à la lumière, en fait. Après que, effectivement, il y a un retour au Tohu. Alors, la avoda, le travail, c'est de montrer dans le monde, ou d'enraciner dans le monde, en quelque sorte. C'est que, effectivement, avec la destruction du Beit HaMikdash, avec le passage qu'on avait vu, Malka Vesarea Abagoim Ein Torah, à partir du moment où le roi, les princes sont exilés parmi les goïms et il n'y a pas de Torah, Kivan Shirabi Akiva Yachai Acharea Churban. Le fait que Rabbi Akiva vive après la destruction, il lui incombait à Rabbi Akiva de dévoiler justement ce lien, cette alliance du Sinaï dans le monde. Mais après le Churban, quand les Bnei Israël sont tombés au plus bas, ils se sont éloignés complètement du niveau Sinaï. Donc, retrouver l'alliance avec Hachem, ça ne peut se faire qu'en dévoilant la Torah Shebalpé. Et en fait, c'est cette chose absolument incroyable que, en vérité, dans l'obscurité la plus profonde, dans le Churban, dans la destruction, en fait, c'est toujours en fait un lien avec Hachem. Toute situation de Churban n'est en réalité que un moyen pour faire monter à la surface des profondeurs la Torah à partir de cette touma et de cette désolation, comme on a expliqué la dernière fois avec on a bien vu dans la royauté que David HaMelech, il est descendu de ses pâturages pour être loin comme roi. C'est-à-dire c'était du moins que rien, il est devenu roi. C'est comme ça, c'est une drôle de situation de comprendre qu'effectivement, ça passe par là. C'est comme si visiblement, ça ne peut pas fonctionner autrement. C'est-à-dire, peut-être que c'est cette même idée que on a l'habitude de dire que dans la génération du Mashiach, ce sera des générations qui sont, les gens disent, sont ou bien tous bons ou tous mauvais. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Ou tout le monde entier travaille et il arrive à monter, ou alors les gens sont tellement mauvais qu'Hachem est obligé de bouleverser les choses et de retourner. Le Gaon de Vilna dit que ce n'est pas comme ça. Le Gaon dit que ce n'est pas possible parce qu'on a une promesse que la Torah ne sera jamais oubliée. Et par conséquent, c'est impossible que ce soit tout mauvais si on n'oublie pas la Torah. Mais ce que ça veut dire, c'est que chacun va virer sa cutie, en fait. Les gens eux-mêmes, ils vont être ou bien complètement du bon côté, ou bien complètement du mauvais côté. C'est la mort du traditionnalisme, quoi, si vous voulez. Il n'y aura pas de gens parvenus. D'accord. Ça sera marqué. C'est cette même idée. C'est qu'il y a deux chemins. Ou tu prends le chemin de la Torah, ou tu prends le chemin de David. C'est-à-dire, on passe par une étape de Tohu, et ensuite, de ce Tohu, on remonte, on passe. Comme on a dit de Rabbi Eliezer ben Dourdaïa, il est passé du moins 49 au Sharei Rachamim, au 50e degré de pureté et de Kdusha. Voilà ce que je voulais un peu voir avec vous.